Bonsoir, la tribune de la presse de ce soir vous propose deux thèmes. Premier thème, le Premier ministre Adolfo Mosito a déposé sa démission auprès du chef de l'État mardi dernier. Le même jour, le Président de la République a nommé le vice-premier ministre, des PPC, Louis Koya Diallo, pour expédier les affaires courantes. Ce jeudi, l'honorable Charlemagne de Simba a été nommé informateur par le Président de la République pour identifier la majorité au Parlement. Deuxième thème, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a rencontré tour à tour lundi dernier les acteurs politiques congolais. Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe et un représentant de Léon Kengo Abondo. La CENCO justifie cette démarche par le fait que le dialogue reste l'unique voie pour résoudre le problème de malaise sociopolitique en RDC. Je reçois trois confrères journalistes pour analyser ce sujet. Ambroise Mamba, journaliste à la télévision Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Ambroise Mamba, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Joël Kadibanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui parie à Kinshasa. Joël Kadibanga, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Et Clément Mangoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Clément Mangoubou, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le Premier ministre Adolfo Mosito a déposé sa démission auprès du chef de l'État, comme je le disais tout à l'heure, et à la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a tour à tour rencontré lundi dernier les acteurs politiques congolais. Commençons par voir comment la presse chinoise a traité les deux sujets que nous analysons ce soir à travers cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. La démission d'Adolfo Mosito comme Premier ministre a occupé les colonnes des journaux de Paris cette semaine à Kinshasa. La prospérité note s'en est finie avec le gouvernement Mosito qui a déposé sa démission au chef de l'État et partant celle de toute son équipe gouvernementale. Cette décision intervient alors qu'expirait le délai accordé à ceux qui exerçaient des fonctions incompatibles avec celles des députés. L'avenir de son côté parle d'un bilan mitigé d'Adolfo Mosito, d'autant plus que pour ce journal, ce gouvernement a été celui des missions dont essentiellement mettre fin à la guerre, restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, stabiliser le cadre macroéconomique, donner à la monnaie sa valeur, restaurer les relations avec la communauté internationale, précise l'avenir. Sitôt après avoir déposé sa démission au chef de l'État, Louis Koya Diallo a été désigné pour assurer l'intérim du Premier ministre Adolfo Mosito. Mais plusieurs controverses s'élèvent autour de cet intérim, rapporte Forum des As. Pour ce journal, selon les prescrits de la Constitution, la démission du Premier ministre entraîne ipso facto celle de toute son équipe. Pendant ce temps, Charles Mwande Simba est nommé comme informateur signale la tempête des tropiques. Selon ce quotidien, Joseph Kabila a surpris en allant à l'encontre de l'article 78 de la Constitution, d'autant plus que la fameuse majorité au pouvoir est connue. L'avenir de son côté invite la majorité présidentielle à faciliter la tâche à Mwande Simba, qui aura beaucoup de peine à trouver un homme à proposer au président Joseph Kabila en qualité de Premier ministre. Le confrère motive son argumentation par le fait qu'il existe de fortes divisions au sein de cette majorité à ce sujet. Cependant, précise l'avenir, faute de consensus, le chef de l'État se verrait dans l'obligation de nommer un oiseau rare selon son cœur et selon son vouloir discrétionnaire, probablement le moins attendu de tous. Parlant de la démarche de la CENCO envers certains acteurs politiques congolais, le potentiel trouve qu'il n'y a point d'autre issue que celle du dialogue entre Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. Pour sa part, la prospérité signe, Kabila et Tshisekedi, les évêques insistent sur le dialogue. Il faut signaler que parmi les autres sujets ayant occupé les colonnes des journaux cette semaine à Kinshasa, figure la célébration de la Journée internationale de la femme, l'explosion d'une caserne de munitions ayant causé des morts à Brazzaville et des détonations ayant semé la panique à Kinshasa le week-end dernier, et enfin l'expulsion des 19 Congolais de la Belgique.
Merci Samuel Kachak, Ambroise Mamba, un bref commentaire par rapport à ça.
Oui, évidemment, il a eu bien traité. Je pense qu'on va peut-être revenir là-dessus sur les analyses par rapport dans la démission du Premier ministre. Les confrères ont senti oublier un peu la marche, les défilés des femmes, parce que c'est aussi important collectivement.
Voilà, ça fait partie des autres sujets d'actualité, la journée du 8 mars, et comment toi tu as analysé cette célébration?
Oh, bon, je trouve tout simplement qu'ensemble, c'est détourner les objectifs, parce que les côtés festifs auront les dessus sur les volets réflexion, par exemple. Là, on remarque, par exemple, les femmes préfèrent mieux porter le pagne nouveau du 8 mars, au lieu de réfléchir par rapport à ce qu'elles doivent faire. Et j'ai un constat amer, par exemple, que les femmes ne savent pas exactement ce qu'elles doivent faire pendant l'année 2012 par rapport au thème de l'année pour soutenir la femme rurale et les filles. Et je remarque encore énormément que la ministre du genre, je ne sais pas en quelle qualité elle a parlé, ministre ou député, parce que son chef avait déjà démissionné, et la démission de son chef entraînait également sa démission, étant donné qu'il y a une compatibilité entre le mandat de député et celui du ministre. Et je n'ai pas compris comment elle a pu tenir son discours, parce que je m'imagine que l'activité est organisée par le ministère et non par Marie-Ange. Et quand il y a la continuité d'affaires de l'État, il fallait que le secrétaire général, par exemple, tienne le prononce des discours ou son vite. Et je n'ai pas compris.
Jusqu'à Debanga, il faut donc repenser à la célébration de la journée du 8 mars.
Absolument, elle est heureuse, il faut bien repenser cette journée, parce que, comme le copain venait tantôt de le dire, l'aspect réflexionnel est en train d'être perdu, parce que, en effet, il fallait que le 8 mars puisse être une journée où les femmes évaluent l'avancement de leur réclamation des droits de la femme. J'ai aimé sur le mur d'une de nos consoeurs qui l'écoutait, elle a dit, moi je ne porterai pas le pagne parce que on est en train de réduire cette journée juste au port du pagne, et on pouvait, n'est-ce pas, réfléchir sur le bilan du combat de la femme, sur est-ce qu'a-t-elle conquis ses droits, mais aujourd'hui on se limite juste à prendre la guerre, donc ça prend un aspect de libertinage qu'on accorde à la femme ce jour-là, donc la femme peut rentrer à n'importe quelle heure, elle peut se permettre le droit, elle peut tout faire le 8 mars. Alors, la journée est en train de perdre son éclat pour laisser la place à des sottises. C'est peut-être qu'il faudrait que... Et puis, il y a un hiatus entre les organisateurs et les compositeurs, passez-moi le mot, du thème, et ceux pour qui le thème a été conçu. Donc, celles pour qui le thème a été conçu, ils ne comprennent rien. Donc, il y a pratiquement une dichotomie entre ceux qui conçoivent le thème et ceux pour qui le thème doit être appliqué. Il faudrait peut-être revoir les choses dans les jours à venir.
Un autre sujet d'actualité, c'est le drame de Brazzaville, qui a aussi secoué Kinshasa un peu de loin.
En effet, le matin du dimanche, nous avons failli ne pas aller dans nos lieux de culte parce que c'était grave. Mais je crois que le drame devrait revêtir un caractère aussi réflexionnel parce que ça ne concerne pas seulement la République du Congo. Aujourd'hui, les casernes se trouvent dans les milieux urbains. Il y a les bases logistiques qui sont dans les milieux urbains. Je pense que le drame du Congo-Brazzaville devrait interpeller tous les pays du monde entier, particulièrement le nôtre, sur la conservation, n'est-ce pas, de l'armement. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait des dégâts pour réfléchir par la suite, je pense. Ça devrait nous interpeller tous pour voir où se trouve l'armement de nos pays, surtout en Afrique.
Clément Mangoubou, vous intervenez de Kisangani. Quelle est l'actualité dans cette ville?
Bon, l'actualité aujourd'hui à Kisangani, c'est la démission quelque peu surprenante du gouverneur de la province, honorable Médé Houssay, parce que tout le monde disait qu'il s'accrocherait au pouvoir, mais contre cette attente-là, il a carrément démissionné. Et qui a surpris un peu l'opinion ici, parce qu'on se disait qu'il allait absolument s'accrocher, parce que jusque mardi, il ne démissionnait pas. Mais contre toute attente, il a choisi pour œuvrer au Parlement. Mais l'actualité, c'est également cette participation massive des 100 piliers, 200 environ, qui ont pris part aux défilés dans les territoires de Wamba et qui sont soumises parallèlement à cette festivité, à cette célébration, qui sont soumises donc à un apprentissage à coupe et couture par les diocèses de Wamba.
Merci. Nous allons aborder notre premier thème de ce soir. Le Premier ministre Adolphe Mozito a déposé sa démission auprès du chef de l'État mardi dernier à Kinshasa. Cette démission du Premier ministre entraîne donc celle de tout son gouvernement. Selon le porte-parole du gouvernement sortant, tous les ministres actuels, élus, députés ou pas, sont aussi déclarés démissionnaires. Explication de Lambert Mende au téléphone de Michel Kifindangoy.
Tout membre du gouvernement qui est allé aux élections en 2011 y est allé parce qu'il entendait exercer un mandat parlementaire dans la deuxième législature. Le fait d'appartenir au gouvernement de la première législature de la Troisième République ne peut pas, à mon avis, inférer en quoi que ce soit sur ce choix. Certains ont déjà annoncé l'option, mais je n'ai aucun doute que tous les membres du gouvernement qui ont participé aux élections et les ont gagnées opteront pour exercer leur mandat parlementaire.
Comment les affaires courantes au niveau du gouvernement vont s'assumer?
Là, c'est une autre question qui relève du chef de l'État et le président va décider de ce qu'il compte faire pour assurer la continuité de l'État, puisqu'en fait, depuis que le Parlement qui nous a investis a cessé d'exister, nous aurions dû cesser également de fonctionner comme gouvernement et nous ne sommes encore là que par application du principe de la continuité de l'État.
Voilà, c'était là Lambert Mende, porte-parole du gouvernement sortant, c'était mardi dernier. Notez que le même mardi, une délégation de membres du gouvernement élus députés est allée déposer leur lettre d'option pour le mandat de député au bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Et ce jeudi, Charles Mondesimba vient d'être désigné par le président de la République informateur du gouvernement. Dans un communiqué officiel rendu public par la présidente de la République, ce député national est chargé d'identifier la majorité au Parlement. Cela dans l'objectif de la formation du prochain gouvernement. Ambroise Mamba, comment vous analysez toutes ces démarches qui devraient déboucher sur la formation du futur gouvernement?
Effectivement, je salue d'abord le fait que Adolphe Mozito a démissionné. Il a fait un choix entre son mandat de député et son poste de Premier ministre. Et il a entraîné, ce facto, la démission de toute son équipe gouvernementale. Je m'imagine qu'il est aussi mécontent, parce que les mécontents, ce sont ceux qui n'ont pas été élus députés, qui souhaitaient rester là, en place. Et là, il permet quand même au chef de l'État de pouvoir prendre sa décision. Le chef de l'État a nommé un informateur qui est Charles Mondesimba. Mais la question que je me pose, c'est comment ça va se passer? Parce que Charles Mondesimba a un délai de 30 jours,
renouvelable une fois,
pour faire rapport au chef de l'État, pour identifier une majorité. Mais le problème, c'est qu'il a une majorité qui était d'abord et déjà été connue, par rapport au fait que la plateforme présidentielle a un pays avait aligné beaucoup de candidats par rapport à tous les partis. Et cette majorité, il faudra maintenant l'identifier officiellement. Peut-être qu'il y a aussi des partis de l'opposition qui pourraient souhaiter faire partie de cette coalition majoritaire pour travailler avec le chef de l'État. Et ça va peut-être se décider à l'issue de consultation. Mais l'inquiétude que j'ai, ça concerne le PALU, parce que le PALU n'a jamais adhéré à la nouvelle charte de la majorité présidentielle. Le PALU avait signé des accords en 2006 avec la majorité présidentielle qui lui a valu ses postes de, lui a valu la primature. Alors, tant que ces accords ont été rompus, le PALU n'étant pas donc au sein de la majorité présidentielle, les nombres des députés étant réduits, le rapport des forces entre les PALU et la majorité présidentielle m'inquiète, parce que par rapport à la nouvelle charte de la majorité présidentielle, il faut avoir 5 députés pour espérer avoir un poste ministériel. Et là, c'est connu pour les députés de ces partis. Mais pour le PALU, va-t-il exiger un autre accord avec la majorité présidentielle pour une coalition? Comment ça va se passer? C'est là que je dis que les rapports de force pourront peut-être intervenir et à ce niveau, parce que cette majorité de la plateforme présidentielle avoisine les 3/4 des sièges et quelque part le PALU n'a pas beaucoup de chance pour faire fort.
N'a pas une grande marge de manœuvre.
Effectivement, on n'a pas une grande marge de manœuvre pour avoir assez de force dans les prochains gouvernements.
Alors, Ambroise, il y a également tout un débat entre constitutionnalistes autour de la désignation de Louis Koya Diallo pour expédier les salaires.
C'est pas courant, effectivement. Oui, mais ce débat, moi, je trouve qu'il n'a pas sa place parce que je me souviens qu'il y a une jurisprudence dans ce pays. Antoine Gizenga, quand il avait démissionné pour un problème de santé, il est resté en place jusqu'à ce que Adolphe Mozito l'a rejoint pour la réunion des reprises. Et Adolphe Mozito également devait rester en place. normalement, s'il n'était pas élu député national, après sa démission, il devait rester en place pour attendre les prochains premiers ministres avec qui il devait faire une remise des réprimes. Mais parce qu'il y a une compatibilité des mandats entre celui député et celui de ministre, il a fait les choix, et Alphonse Louis Koyagalo n'ayant pas été élu député national, les choix du chef de l'État est tout à fait valable.
Joël Kadir Banga, certains observateurs pensent que le fait pour le président de la République de désigner Charlemagne Dosimba comme informateur pour identifier cette majorité, c'est des mauvais augures pour la future majorité.
Oui, c'est des mauvais augures, et non seulement que c'est des mauvais augures, mais ça présage une crise au sein des membres partis de la majorité présidentielle qui ne se serait pas convenu sur le site oiseau rare de l'État commun, le fait de l'État pour les 5 prochaines années. Je pense que la désignation de Charlemagne Dosimba devrait avoir répondu à une manière de renvoyer les protagonistes qui concouraient à ce poste de Premier ministre au sein de la majorité présidentielle, qui ont même déjà, qui avaient déjà commencé, n'est-ce pas, à se lancer dans des cabales, dans des attaques dans la presse, juste pour salir tel ou tel autre concurrent en vue d'avoir de l'espace au soleil. Alors je crois que le chef de l'État devait avoir réagi par un critère purement subjectif, de manière à les départager tous. On désigne le plus âgé, n'est-ce pas, de député de la majorité. Alors, ce plus âgé pourra essayer alors de réunir les autres sous le compas de l'âge, et comme ça, tout le monde est renvoyé dos à dos, et on peut maintenant, parce que en effet, la désignation d'un informateur du gouvernement, on pouvait déjà procéder à la désignation d'un informateur du gouvernement parce que la majorité est identifiée. Au cas où la majorité n'était pas facilement identifiable, on pouvait alors désigner un informateur. Mais je crois que la désignation de Mando Simba présage déjà une crise au sein de la majorité présidentielle où les violons ne s'accordent pas et tous concourent. Mambala dit tantôt, lorsqu'il parle du palou. Et lorsque vous regardez la plupart des presse qui ont été dirigées contre certains non cités comme des vents occupés le poste de Premier ministre, dans la plupart des cas, le palou a été soupçonné, n'est-ce pas, de jeter les pots de banane sur la route de certains concurrents afin de rester seul devant. Et pourtant, le palou n'avait pas fait le choix d'adhérer à la majorité, à la coalition qui avait déjà été mise en place avant les élections. Donc, dire que la désignation de Mando Simba est de mauvais augure, c'est vrai, mais je crois que le chef de l'État devrait avoir réagi ainsi pour, n'est-ce pas, renvoyer dos à dos les protagonistes qui étaient même prêts à se lancer dans une guerre beaucoup plus ouverte.
Clément Mangoubou, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bon, moi je me dis, la majorité est connue, ça c'est de manière empirique, c'est de manière présumée, mais il faut formellement l'identifier non seulement les membres des partis politiques qui sont au Parlement, mais aussi les personnalités liées à la majorité présidentielle. Et je me dis également que le président de la République disant de sa discrétion constitutionnelle a préféré choisir une personnalité que lui a estimé capable d'identifier cette majorité-là et de lui présenter les premiers éléments qui peuvent aider à constituer un gouvernement. Je ne pense pas que ce soit de mauvaises augures. Pourquoi de mauvaises augures? Dans la mesure où le président était tout à fait libre de choisir n'importe quelle personnalité qu'il estimait capable de réaliser ce travail-là. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de voir comment va se comporter cet informateur et qu'est-ce qu'il va donner comme résultat du travail qui sera en train d'abattre sur le terrain. Parce que nous ne devons pas oublier que le pays est pratiquement à la croisée des chemins. Vous savez, il y a des gens qui étaient au gouvernement, qui sont chefs de parti, qui ont aussi besoin de revenir au gouvernement. Or, l'opinion générale attend que le président puisse trouver ces oiseaux rares-là, capables, compétents et prêts à servir véritablement la nation. parce que il faut éviter que ceux qui sont partis ne sont pas exclus reviennent encore. Bon, il y a certains athlètes qui ne partiront pas nécessairement. Et il ne faut pas que le président se sente lié par une certaine démarche dans ce qu'il est en train de faire.
Mais ne faudrait-il pas à Clément Mangoubou reconnaître que les élections ont quand même donné lieu à plusieurs frustrations au sein de la majorité présidentielle?
Au sein de la majorité, il y a eu des problèmes. Les gens se sont tirés dessus, les gens sont allés jusqu'à la Cour suprême, les gens se sont battus. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais cela n'entame pas nécessairement l'unité au sein de la majorité présidentielle. Bien sûr, il y a des ambitions. Et c'est un problème d'ambition. Un problème qu'aujourd'hui, la majorité elle-même doit gérer. Que le président de la République, qui chapeaute cette majorité, doit gérer. Ensemble avec tous les autres membres de la majorité présidentielle. Évidemment, on sait qu'il y a eu des escouades, il y a eu même des coups qui ont été montés contre des gens présumés candidats à la primature, et je pense que cela, c'est un problème sérieux. Et il faudra qu'il y ait beaucoup de perspicacité de la part du président, une grande vision pour arriver à surmonter ces écueils-là.
Merci Clément Mangoubou. Ambroise Mamba, vous êtes journaliste à la télévision Congo Web, une télévision qui est née depuis Kinshasa. Quel est pour vous le profil du futur Premier ministre?
Oui, le profil du futur Premier ministre, vous savez, c'est par rapport aux attentes de la population, hein, le plus compétent. Le plus compétent, pas celui qui va procéder au clientélisme, pas celui qui va être assez léger, mais qui n'est pas compétent. Mais je voudrais revenir par rapport à ce que Joël a dit tout à l'heure, par rapport aux frustrations au sein de la plateforme présidentielle. Charlemagne Ntimba n'est pas du peu perdu. Il a son parti, il est du manège, quelque chose comme ça. Mais j'aurais voulu voir le chef de l'État retourner l'ascenseur au peu perdu parce que le parti présidentiel a permis à Joseph Kabila d'avoir quand même une majorité parce qu'on avait créé certains partis satellitaires qui certains partis satellitaires qui ont donné au chef de l'État beaucoup de députés. D'ailleurs, dernièrement, Boucha a voté avec tous ces députés là dans un séminaire. Et on devait quand même lui retourner l'ascenseur pour qu'il dégage cette majorité, qu'on lui donne cette possibilité d'avoir un Premier ministre. Comme ça, on va gérer ses frustrations au sein de la maison et ça ne va pas barder. Mais quand déjà il nomme un informateur de notre parti de l'UNADEF, je ne dis pas ici que forcément il sera le Premier ministre, mais je me rappelle par exemple en 2006, Antoine Gizinga, avant d'être nommé Premier ministre, il était nommé informateur. Et en 2006 encore, depuis 2006 à 2011, le chef de l'État a été lié aux accords qu'il a signés avec le Palou. Mais je ne voudrais pas ici qu'il soit encore lié à ses origines, parce que Charles Mandoutine a eu du Katanga, par exemple, qu'il choisisse un Premier ministre du Katanga, qu'il choisisse un Premier ministre de son coin, là, ça va poser problème sur le plan de la géopolitique. Et voilà pourquoi on souhaitait voir peut-être un informateur d'une autre province, par exemple,
de l'Ouest,
par exemple. Et là, ça va lui donner confiance lors des consultations pour qu'il n'y ait pas de frustrations. Et tant qu'il y a des frustrations, même les bases sur lesquelles il faudra s'asseoir pour bien gérer seront biaisées.
Joël Kadebanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, un mot également sur le profil du futur Premier ministre.
Bon, le profil du futur Premier ministre, nous avons besoin d'un serviteur du peuple. Vous savez, nous avons vu des gens qui, contrairement au slogan Impair, servir et non se servir, nous avons vu des gens qui se font servir. Il faut juste voir ceux qui ont été Premier ministre ou ministre dans le gouvernement qui vient de démissionner en retard, parce que la démission du gouvernement était attendue dès la proclamation, n'est-ce pas, des résultats provisoires par la CENI. C'est là que Mouzouki devait démissionner. Mais il a attendu, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement dire que c'est pour la continuité des services de l'État. Je crois que les services de l'État est entendu dans l'administration publique, laquelle l'administration publique est assurée d'une manière permanente par les secrétaires généraux, les directeurs dans tous les services qu'il y a, l'administration publique. Donc, ça ne veut pas dire que le politique devait poursuivre. Mamba a dit tantôt, en ce qui concerne Marie-Ange Loukiana, elle ne devait pas prononcer le discours dit, elle l'a prononcé en tant que qui. Donc ça, c'est de un. Et des deux, parlant du profil du futur Premier ministre, nous avons besoin d'un serviteur et non de gens qui ont escroqué les voix du peuple pour aller le représenter au Parlement, ni qui courent derrière le chef de l'État, qui courent derrière pour être au sein du gouvernement pour leurs intérêts personnels. Quand ils sont allés demander le mandat auprès du souverain primaire, c'était pas pour qu'ils soient des ministres, c'était pas pour qu'ils soient... Notre constitution un peu sépare, on n'est pas comme en France, où vous pouvez être député en même temps ministre, vous pouvez faire partie de deux pouvoirs législatifs et exécutifs. Puis chez nous, il y a la séparation de pouvoirs. Je crois vraiment que ceux qui ont sollicité le mandat devraient respecter ce peuple en le servant au sein du Parlement de notre pays et qu'il laisse même libre au chef de l'État de se choisir des gens compétents, ceux qui vont accepter d'être serviteurs du peuple. On peut, ça fait très mal de voir le chef de l'État, le président de la République, descendre par exemple dans le chantier pour aller superviser le chantier. Donc quand vous voyez un chef qui fait son bureau pour aller dans le bureau de sa secrétaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous voyez le chef qui fait là où il devait travailler, quitter le palais de la nation, pour descendre dans le bureau d'un capitaine ou de la sentinelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que cette fois-ci, le chef de l'État ou le peuple congolais, nous n'avons plus besoin de l'immobilisme, nous n'avons plus besoin des gens qui sont dans leur bureau climatisé et qui ne connaissent pas la situation du terrain, dont, et qui ne lisent même pas les rapports qui viennent. On a besoin d'un serviteur du peuple qui va comprendre que le peuple congolais a longtemps souffert, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité, on a besoin de manger, on a besoin de soins de santé, on a besoin de l'éducation. Un homme qui va aider le chef de l'État à mettre en pratique cet ambitieux programme que l'on appelle 5 chantiers. Nous avons besoin de quelqu'un comme ça, et pas quelqu'un qui est là dans le bureau et qui va lui-même s'enrichir, bâtir des grands immeubles à travers la République, être dans la navigation, dans l'aéronautique, être partout, mais il s'éteint au lieu de servir le peuple. On a besoin d'un serviteur du peuple.
Clément Mangoubou, un mot sur le profil du futur Premier ministre.
Et alors là, il faut dire que le futur Premier ministre, ça va être un homme qui a une grande instruction, ça c'est vrai, c'est important, et qui a une bonne vision pour les relèvements de ce pays, mais pas quelqu'un qui vient pour son ventre et pour l'argent, mais quelqu'un qui va se vouer véritablement aux intérêts de ce pays, aux intérêts des populations, qui va avec la population, transformer les conditions d'existence des gens et résoudre de manière pratique et pragmatique les problèmes qui se comme récurrents qui se posent aujourd'hui au pays. Les confrères viennent de le dire, les problèmes d'électricité, le problème d'eau, les problèmes de routes de desserte agricole, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, eh bien, c'est une multitude de problèmes à résoudre. Mais si c'est quelqu'un qui vient avec une vision nette, qui est déterminé à sortir le pays du gouffre, qui est déterminé à transformer les conditions d'existence des populations, quelqu'un qui va œuvrer pour la véritable transformation de ce pays, alors là, on est d'accord. Et il faut qu'il soit véritablement compétent. Ce n'est pas un homme à l'esprit tribaliste, un homme sectaire, un homme qui ne voit que ceux qui sont à ses côtés et qui ne connaît pas les véritables problèmes des pays. Il doit connaître l'histoire de ce pays. Il doit connaître la géographie de ce pays. Il doit connaître les mines de ce pays. Il doit connaître la forêt de ce pays. Il doit véritablement connaître le pays. Mais pas n'importe qui, parce que souvent, ce qui arrive, c'est le clientélisme qui prend les dessus. Et là, c'est dangereux pour le pays.
Merci, confrère. Je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal Monde Gaza, un hebdomadaire parissant à Kisangani en province orientale. Je vois Ambroise Mamba et Joël Kadebanga demander instamment la parole. Très rapidement, Ambroise.
Effectivement, par rapport au travail du Premier ministre, je ne voudrais pas que le prochain Premier ministre soit un homme libre. Et c'est là que j'interpelle le Parlement 2006 à 2011 n'a pas fait correctement son travail en ce qui concerne le contrôle parlementaire. Et là, il y avait des laissés-aller, on a blanchi des ministres qui sont compromis dans leur fonction. Et là, je dirais que cette fois-ci, ce nouveau député sincèrement les ministres qui vont se compromettre.
Je vais garder 30 secondes.
Mais je ne voudrais pas que l'on puisse entrer dans les allégations selon lesquelles le Premier ministre ne peut pas être blâmé pour ce qui est celle du chef de l'État. En tout cas, ça n'a aucun soubassement constitutionnel. Si le chef de l'État peut trouver que l'homme rare qui peut l'aider pour bâtir le pays se trouve au Katanga, vous savez, même quand on parle du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, il est lié d'abord par la majorité au Parlement qui est déjà identifié, et chaque parti politique devrait se faire valoir par rapport au poids politique qu'il a. Pas quelqu'un qui a 16 députés et qui veut être Premier ministre parce qu'il est de l'Est ou de l'Ouest. Non. Nous avons déjà le PPRD qui a présenté qu'on laisse au PPRD cette fois-ci dénuger. Comme ça, on sait qu'il peut être comptable à la fin du mandat. Il ne faudrait pas que les choses se passent comme ça s'est passé dernièrement, c'est le Fallou qui a dirigé. Et quand c'est le PPRD qui a conféré, c'est la raison pour laquelle même le nombre de députés PPRD a été réduit parce que le PPRD ne pouvait plus statuer. Tout le mal qui a été commis pendant les 5 années, c'est le PPRD qui a été comptable. Même pour des méfaits qui n'a pas commis. Il y a les provinces qui ont beaucoup donné. Donc, que chaque province, que chaque parti politique puisse recueillir les responsabilités suivant le poids politique qui a permis au chef de l'État de gagner le pouvoir. Évitons les discours d'ordre tribaliste et consort que le chef de l'État ne peut pas sortir à l'Est. Si l'oiseau rare se trouve à l'Est, il le trouve à l'Est au lieu de chercher à se cramponner derrière certains arguments qui ne tiennent pas debout.
Abordons notre deuxième thème de ce soir. Le dialogue reste l'unique voie pour résoudre le problème de malaise sociopolitique en RDC. Propos du secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ce mardi à Kinshasa. Pour l'abbé Léonard Fantelli, ce dialogue justifie la démarche des évêques catholiques de rencontrer les différents acteurs politiques du pays. L'abbé Léonard Fantelli est au micro de Paul Matendo.
L'Église continue à demander alors qu'il y ait ce grand dialogue. Elle-même a donné donc le temps en allant rencontrer le chef de l'État qui a bien reçu les évêques, en allant rencontrer M. Tiens Tshisekedi qui lui aussi a bien reçu les évêques. Il était honoré d'ailleurs de cette visite, a rencontré M. Vital Kamerhe, a rencontré un délégué de M. Kungo parce que M. Kungo n'étant pas sur le pays. Et donc pour l'Église, le message reste clair, c'est le dialogue entre acteurs politiques et avec toutes les forces vives de la société civile qui, pour nous, est l'unique voie, je dirais, pour résoudre le problème de malaise sociopolitique actuel, l'unique voie aussi pour travailler ensemble à reconstruire notre pays dans la paix, dans la justice et la vérité.
Clément Mangoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale, êtes-vous optimiste par rapport à la démarche de la SENCO?
Bon, optimiste, oui, je peux être optimiste, mais lorsqu'on va au dialogue, il faut déterminer la matière. De quoi allez-vous parler exactement? Parce qu'ici, on a eu l'impression que la SENCO a rencontré deux extrêmes. D'un côté, le président Kabila qui estime qu'il a été élu et qu'il n'a plus rien à négocier aujourd'hui. Et de l'autre, Étienne Tshisekedi qui estime qu'il a gagné les élections et que la vérité des urnes doit être rétablie. Et on parle déjà sur des fausses prémices. À ce moment-là, le dialogue peut tourner à rond ou peut tout simplement ne pas avoir lieu. Mais il faut qu'on détermine la matière sur laquelle les délégués vont plancher. Et là, c'est tout un problème. Et il ne s'agit pas de mettre tout simplement les gens face à face pour qu'ils finissent par regarder dans la même direction, mais il s'agit de voir les fondements du problème. Quel est le problème qui va être discuté? Et là, la SENCO ne le dit pas clairement. La SENCO estime tout simplement qu'il faut pacifier les esprits, il faut mettre les gens ensemble, alors que les deux camps sont continués à rester sur leur position du départ. Alors là, ça devient compliqué. Ce que je voudrais demander, c'est tout simplement que les Congolais aient le temps de réfléchir de temps en temps sur les problèmes du pays. Pas nécessairement Kabila et Tshisekedi, mais tous les Congolais. où qu'ils se trouvent, qu'ils prennent le temps de dialoguer pour parler du développement de ce pays, pour parler des projets intéressants de ce pays, pour parler de l'avenir de ce peuple. Et je crois que ça peut être une bonne chose.
Joël Kadebanga, plusieurs observateurs pensent que l'Église catholique, surtout en allant voir Joseph Kabila, voulait se racheter par rapport à toutes les déclarations qu'on a connues dernièrement.
Oui, c'est pourquoi à notre niveau, nous avons dit que cette démarche vient en retard. Vient en retard parce que le temps que l'Église devait se mettre au milieu du village n'a pas été observé. Et elle avait choisi de soutenir un chemin qui semblait être ni favorable qu'il s'agisse de Tshisekedi ou de Kabila, mais un chemin qui semblait être connu seulement des autorités de cette église. Mais en lançant maintenant cette démarche pour rencontrer les protagonistes aux dernières élections, je crois que c'est un retard parce que nous sommes déjà devant un fait accompli, un parlement qui est déjà mis en place, un chef de l'État qui a déjà désigné un informateur pour identifier la majorité au sein de cette majorité partiellement la tautologie. Et je crois que c'est en retard parce que le pouvoir en place semble avoir déjà mis tout le peuple congolais devant c'est accompli. L'opposition aussi dirigée par Tshisekedi semble aussi avoir levé une option de dire non à tout ce qui va se passer. Le dialogue, oui, c'est ça la solution, mais je pense que je ne vois pas, comme le conseiller l'a dit, je ne vois pas sur quelle prémisse, sur quel fondement, sur quelle base, n'est-ce pas, va être construit ce dialogue. Parce que les uns vont recourir à la légalité, les autres recourent à la légitimité. Je pense, peut-être pour l'instant, c'est un rachat, vous l'avez dit, mais que ce rachat puisse que l'Église revienne au-dessus de la mêlée, que l'Église revienne à son rôle de berger. Un berger, c'est celui qui recueille et le mauvais et le bon, et la bonne et la mauvaise brebis, qui les mettent ensemble pour qu'ensemble on regarde vers l'avenir, qu'au lieu de rester cramponné sur des élections qui sont déjà passées et qui ont été tenues dans les conditions que tout le monde connaît.
Merci, Joël Kadebanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire aussi. Paris à Kinshasa, Ambroise Mamba, le camp du président Kabila a une position déjà tranchée, l'UDPS également, apparemment ça paraît mission impossible pour ce dialogue, faut-il une fois de plus la pression de la communauté internationale?
Effectivement, parce que c'est nécessaire, je suis pessimiste par rapport à la tenue d'un dialogue, mais je trouve que ce dialogue est nécessaire. Nécessaire parce que je vais d'abord rebondir par rapport à ce que Joël venait de dire tout à l'heure, parce que c'est nécessaire qu'il y ait ce dialogue, ça va décrisper la situation, ça va apaiser les esprits, et si on ne tient pas ce dialogue, au cas où on nommait un premier ministre du Katanga, on ne respecte pas le principe de la représentation nationale qui est constitutionnelle, et là, il y aura des frustrations au sein même de la majorité présidentielle, et là, il y aura certainement problème. Mais si on règle la question par rapport au fait qu'il y a eu des consultations par rapport aux élections, je pense que là, le cahier de charges du dialogue est très important. Il faudra que Joseph Kabila sache de quoi on va parler, que Cyril sache de quoi on va parler, et les deux parties peuvent se mettre ensemble, et comme ça, ils se mettent d'accord. S'il faudra partager le pouvoir, mais le problème c'est là que le bas blesse, parce que les gens de la majorité ne veulent pas partager le pouvoir, parce que le gâteau est tellement sucré, il y a déjà on s'est déjà enfermé dans une logique sécuritaire, on veut déjà gérer par défi, et ce qui veut dire qu'on passe outre les dialogues. Mais c'est important parce que si l'UDPS levait l'option de ne pas participer au débat. Vous avez appris, par exemple, dernièrement, il y avait une étudiante de la Banque mondiale qui refusait de soutenir le budget de la RDC parce qu'il n'y avait pas un contre-pouvoir. Et s'il n'y a pas une opposition forte au niveau du Parlement, ce qui veut dire que les débats pour tous les budgets du pays ne va pas concerner l'opposition. Ici, ça ne concerne pas l'opposition, il n'y a pas de contre-pouvoir. Là, les partenaires internationaux ne peuvent pas soutenir un tel budget. C'est important, à ce moment-là, qu'on puisse dialoguer avec l'UDPS, qu'on puisse dialoguer avec le CPD, pour qu'on mette les deux parties ensemble, qu'on gère, c'est pour l'affaire du pays. Le chef de l'État avait déjà fait une ouverture. Moi, je ne voudrais pas qu'il reste là, l'ouverture, pour dire, par exemple, que non, parce que Mandosimba va bientôt entamer les consultations, que l'UDPS aille pour dire, voilà, par rapport au discours du chef de l'État d'investiture, l'ouverture qu'il avait faite pour nous. Nous sommes là, nous pouvons travailler avec lui. Non, mais qu'on puisse aller par rapport à tout ce qui a concerné les contestations électorales.
Merci Ambroise Mamba, journaliste à la télévision Congo Web, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission. Je vais vous demander d'être très bref au dernier tour d'étape. Clément Mangoubou, faudrait-il une fois de plus la pression de la communauté internationale en guise de conclusion?
Bon, je ne sais pas ce que viendrait faire la communauté internationale dans nos affaires que nous avons.
Parce qu'on a l'impression que nous avons du mal à nous entendre.
Mais lorsqu'il y a élection, il faut que quelqu'un gagne et l'autre accepte qu'il a perdu. Mais lorsqu'on a pris le pouvoir, on les gère. Si on estime qu'on peut les partager avec les autres, on les fait en âme et conscience. Là, on ne va pas contraindre les chefs de l'État, mais je crois qu'il avait déjà annoncé dans son discours d'investiture qu'il ferait quelque chose dans ce sens-là. Mais pour revenir à Charles Mwambisima, je voudrais dire que nous ne devons pas exacerber les clivages Est-Ouest ou revenir chaque fois sur la représentation provinciale. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin des hommes capables de diriger ce pays avec compétence, avec détermination et nous conduire véritablement au développement. On peut aligner tous les gouvernements membres du Katanga, ce n'est pas ça notre problème. Mais notre problème est que les attentes, les besoins, les préoccupations que nous avons peuvent être résolues.
Clément Mangoubou, puisque vous faites allusion au premier thème, juste une petite question, faudrait-il déjà dresser le bilan du gouvernement Mozito?
Bon, je crois que la tâche revient à l'ex-premier ministre lui-même, mais je me dis que les attentes de la population n'ont pas été satisfaites. La population attendait beaucoup du gouvernement Mozito, mais il se fourvoyait dans d'autres préoccupations au lieu de se pencher véritablement sur les problèmes réels des populations et du pays.
Merci Clément Mangoubou, Joël Kadebanga. Revenons au dialogue proposé par la CENCO. Quelle est finalement la voie de sortie?
La voie de sortie, c'est que le chef de l'État se mette au-dessus de la mêlée. Il n'y avait pas question d'attendre la communauté internationale, comme vous l'avez dit. Si le chef de l'État aujourd'hui peut seul faire les pas vers les tiens qui s'est dit, aller sur la rue, payer, tunis, comme vous le dites, aller tendre la main, c'est son père, c'est son frère, aller causer à deux, loin des caméras, loin de tout le monde, que à deux ils trouvent la solution, je crois que c'est très facile. Mais dans notre pays ou dans les pays africains, c'est l'orgueil et la sécurité des uns et des autres qui prévaut. Si aujourd'hui le chef de l'État peut se dépasser, parce qu'il a été élu, et aujourd'hui il est le chef de l'État de tout le monde, et des membres de l'opposition, et des membres de la majorité. Si le chef de l'État peut seul se décider d'aller voir qui se dit, d'aller frapper à la porte de tout ce qui est dit, pour qu'ils s'entendent les deux là, parce que le mal ou le comble des Congolais aujourd'hui, c'est aujourd'hui les deux individus, je ne parle pas en tant que chef de l'État là, en tant qu'institution, je parle en tant qu'individu, en tant que Joseph Kabila Kabange. Il quitte, vous allez voir, comme l'avaient fait à l'époque les autres chefs de l'État. Je pense que la solution se trouve à ce niveau. Si les deux peuvent s'entendre, si les deux peuvent se convenir, je crois que tout le monde pourra suivre ce qu'ils pourront s'être convenu pour qu'on regarde tout vers l'avenir au lieu de rester cramponné sur le passé qui est déjà passé.
Ambroise Mamba, je vous ai vu aussi très positivement. Sans parler, Joël.
Effectivement, c'était ça d'ailleurs ce que j'allais dire, ce que Joël a dit. Je voudrais qu'il y ait de l'humilité dans les chefs du chef de l'État, dans les chefs de SNCG également, qu'il y ait de l'humilité, que le chef de l'État qui a gagné les élections aille voir SNCG parce qu'il a gagné les élections, il a sa majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale bien entendu, mais qu'il aille les voir pour lui dire j'ai gagné les élections, vous n'avez pas accepté, et voilà ce que je vous propose. Il aura raison. Mais c'est ce qu'il dit, il prendra l'opinion nationale et internationale à témoin. Il va lui dire, effectivement, il est parti voir Jean-Pierre Bemba en 2006. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir et ce qu'il dit maintenant? Il prendra l'opinion nationale et internationale à témoin. Regardez, je décide d'aller le voir. Si c'est ce qu'il dit en disant, il va dire, écoutez, il n'aime pas écouter, il n'a pas le coup d'ouverture, et il aura eu raison.
Merci, cher confrère, d'avoir participé à cette émission Tribune de la Presse de ce soir. C'est terminé. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Kevin Couté, Samuel Kachak, sous la supervision de Marco Sebouzangwe. William Lungamba était à la mise en onde, présentation et coordination. Alain Hiroum Moussouz, au revoir et bon week-end. I'm going to go to the next one.